Star Berlin.
It's morning edition from NPR News.
Das sieht hin, San Pinter aus.
France Inter. Le 18.
D'un pays à l'autre, la planète tombe le masque et parfois aussi le passe. C'est la grosse désescalade, pour employer un mot à la mode, l'occasion de nous comparer, pas forcément nous lamenter d'ailleurs. Vous verrez que certains pays en Europe du Nord notamment ont un coup d'avance. L'Asie, autrefois exemplaire, a plutôt un temps de retard et comme c'est le cas depuis le début, Israël est un peu notre modèle de référence et on y vient tout de suite. Le bruit du monde ce soir est au Japon et c'est dans un drôle de monde que vous allez naviguer, vous faire peur aussi, le monde des esprits et des chamans. Le bruit du monde, la suite sous les radars. Claire Chaudière a trouvé l'Expresso qui veut qu'on le reconnaisse au patrimoine mondial de l'UNESCO, le Cambodge qui accentue la surveillance en ligne de sa population et les livres en Iran qui sont victimes aussi de l'embargo américain. 18h50, l'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes, avec Pierre Benazet qui va nous raconter pourquoi les Suisses et les Britanniques étonnamment frappent à la porte. Et puis 18h55, le monde d'après de Jean-Marc Four et l'Europe encore elle qui entend mettre en place une nouvelle donne. On y est avec l'Afrique, c'est séduisant, nous dira Jean-Marc, mais c'est pas gagné. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Synthèse. Un jour dans le monde.
Bonsoir Cyril Cohen.
Bonsoir Fabienne.
Vous êtes immunologue, vous êtes professeur à l'université Bar-Ilan de Tel Aviv, vous êtes membre du conseil consultatif sur les essais cliniques des vaccins contre le Covid. Vous allez être notre fil rouge, monsieur Cohen, dans notre tour de la planète qui tombe le masque. Et vous, vous tombez même plus que ça. En Israël, c'est la fin de ce que vous appeliez, vous, le passeport vert, ce qu'on appelle, nous, le pass sanitaire. Vous aviez été l'un des premiers à l'instaurer. On sent bien que tout le monde se détend, mais personne n'ose dire c'est fini, on maîtrise tout. Est-ce que c'est ce qu'on dit en Israël, c'est fini, on maîtrise tout?
Non, non et non. On ne dit pas, on ne dit pas qu'on maîtrise tout, loin de là. On dit que la situation actuelle est une situation qui nous permet, je dirais, de lever certaines restrictions, parce qu'il y a des facteurs, je dirais, biologiques, épidémiologiques, immunologiques, qui nous montrent que on est face à un variant qui est problématique. Je tiens à rappeler qu'on a quand même 20 000 infections quotidiennes. Mmh. On a 300 personnes qui sont en état critique toujours. Mais on voit une progression, ou du moins une chute des cas. On extrapole un peu. On a des traitements. On a une population qui est vaccinée avec 3 et même 4 doses. Mmh. Et donc, on se dit qu'il arrive un moment où il faut revenir à la vie qu'on connaissait.
Ça veut dire qu'il faut lâcher prise, en fait. Vous dites-vous que la vague est cassée, en fait, et que ça suffit pour lâcher prise. Et lâcher prise, ça veut dire se faire confiance aussi. Est-ce que c'est ça que ça veut dire aussi en creux, monsieur Cohen?
Oui, ça veut dire se faire confiance dans un sens, ça veut dire être réaliste, dire qu'on a fait pratiquement tout ce qu'on pouvait. C'est sûr qu'on peut, je veux dire, on a réalisé une certaine chose avec l'Omicron, c'est qu'on peut pas, on pouvait pas arrêter ce variant. Et si on voulait vraiment l'arrêter, ben il aurait fallu un confinement drastique ou des mesures vraiment drastiques. Et ça, c'est un choix que l'on n'a pas fait en Israël comme d'autres pays. Donc voilà, on réalise qu'on est dans une situation aujourd'hui où on vit avec la Covid-19, du moins on fait de notre mieux. Disons que la Covid-19 vit avec nous sans problème, ça oui. Mais quoi qu'il en soit, on reste flexible. C'est ça aussi, ça qui est important. C'est-à-dire que certaines mesures vont être justement évaluées toutes les semaines, même si on les lève ou on les lève pas, toutes les semaines on fera un point pour décider si on a pris les bonnes décisions, comme on l'a fait depuis le début.
Vous aviez été, vous, les pionniers de la quatrième dose, et ils sont rares les pays à avoir été jusqu'à 4 doses, en fait, rapidement réservés d'ailleurs aux plus fragiles. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire on peut même arrêter la quatrième dose, arrêter et voir, parce que on a bien compris que vous pouviez aussi bien revenir en arrière comme nous tous. Mais est-ce qu'on se dit là, la quatrième dose, on peut s'arrêter?
Elle est offerte, elle est pas, on n'encourage pas, voilà. Qui veut la faire, la fête. Il y a 700 000 Israéliens qui l'ont faite pour une population de 9 millions. Ça fait à peu près 40% des personnes éligibles dans cette tranche d'âge. C'est au-delà de l'âge de 60 ans. Les personnes vulnérables, fragiles, et bon, c'est ouvert plus ou moins à qui le veut, Donc, c'est de facto, je dirais qu'il n'y a pas, on se rue pas vers cette quatrième dose. Vous savez, on a d'autres nouvelles en Israël. On va commencer à tester le vaccin qui est, je dirais, adapté à l'Omicron, mm-hmm. Dans les jours qui viennent. Donc ça aussi, il y a certaines personnes qui se disent, bon, écoute, un Omicron, c'est pas dangereux. Beaucoup de personnes ont eu l'Omicron. Donc il y a moins de, je crois, aujourd'hui, beaucoup de, il y a moins de, d'encouragement et d'enthousiasme en ce qui concerne cette quatrième dose.
Alors vous savez pourquoi je vous pose la question, Cyril Allez-y. Cohen? Parce que certains pays ont passé ce cap-là. Les premiers, ce sont les Danois. Bonsoir, Frédéric Faux. Mm-hmm.
Bonsoir.
Et merci d'être avec nous, Frédéric. Avec vous, on a souvent parlé de la situation de la Suède. On y viendra toujours. On y viendra aussi. Qu'il y a toujours eu cette politique à part, on va dire, concernant le Covid. Mais aujourd'hui, effectivement, c'est le Danemark qui nous intéresse précisément parce que, et c'est assez surréaliste quand même, vu de chez nous, le Danemark a annoncé la fin de son programme de vaccination. Alors, est-ce qu'on peut d'abord répondre à ça? Pourquoi maintenant? Et pourquoi si tôt par rapport à tout le monde?
Alors d'abord, un bémol. Hein. Vous avez raison de parler d'annonce, car il faut attendre le calendrier détaillé qui sera confirmé fin février. Mais c'est vrai que le Danemark est le premier pays à s'engager sur cette voie. La raison, c'est que 81% de la population est déjà vaccinée avec deux doses, 61% avec trois doses. Alors ce n'est pas du 100%, mais même avec cette couverture incomplète, le Covid ne menace plus le système de santé. On ne compte plus qu'une trentaine de personnes en soins intensifs. Comme le pays a renoncé à proposer une quatrième dose aux personnes âgées et qu'il estime que deux doses sont suffisantes pour les moins de 18 ans, eh bien l'arrêt du programme de vaccination apparaît donc comme une suite logique.
Et pourtant, l'épidémie est bien là et toujours là.
C'est vrai, hein, je ne vais pas vous assommer de chiffres, mais quand on regarde les courbes, on peut se dire à première vue que les Danois sont tombés sur la tête car on est au pic sur tous les tableaux, que ce soit le nombre de contaminations, même le nombre de personnes hospitalisées. Mais encore une fois, avec beaucoup moins de cas graves. Et puis, le printemps n'est plus très loin. C'est ce constat aussi qui a autorisé les Danois à lever toutes leurs restrictions, comme les autres pays scandinaves d'ailleurs.
Alors, c'est vrai que ça c'est un fait nouveau. On sait que... pendant l'épidémie, Frédéric, ces pays n'ont pas été souvent sur la même ligne, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils se sont même chamaillés les uns les autres. Mais là, s'agissant des restrictions, elles ont toutes été levées en même temps.
Effectivement, le Danemark a commencé le 1er février, la Suède a suivi le 9 et la Norvège a fermé le banc ce samedi. Évidemment, toutes ces mesures ont été très bien accueillies par la population.
Alors ça, vous m'étonnez, si je puis dire. Je voudrais quand même qu'on finisse avec le cas suédois, Frédéric, parce qu'on présente souvent ce pays comme celui qui a laissé faire pendant la pandémie. Le masque, même en intérieur, n'a jamais été obligatoire. Or, si on a levé les restrictions, c'est qu'il y en a eu. Donc en fait, on parlait de quoi ?
Eh bien, on ne parlait pas de confinement ou de masques, mais de jauges et de seuils pour limiter les rassemblements. Jusqu'à la semaine dernière, tous les événements organisés en intérieur étaient donc limités à 50 personnes, sauf sur présentation d'un pass vaccinal. Et il y a aussi un nombre limité de visiteurs par mètre carré dans les commerces, les gymnases, et dans un endroit auquel vous ne pensez pas, mais qui est très important ici, parce qu'il y fait chaud, parce qu'on y célèbre la convivialité, la proximité physique, et pas la distanciation. Je veux bien sûr parler des saunas qui ont complètement réouvert.
Voilà, la Suède sans ses saunas n'est plus tout à fait la Suède. Frédéric Faux avec nous depuis Stockholm. Merci beaucoup. Cyril Cohen, je reviens vers vous. C'est compliqué pour tout le monde, cette apparente contradiction dont parlait Frédéric et qui est vraiment passionnante. Les cas sont là, mais on arrête tout. C'est le cas, par exemple, du Danemark. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on est en train de considérer désormais que le Covid, c'est la grippe, dont il faut rappeler que même pour les plus fragiles, c'est aussi une maladie mortelle, mais que ce mot-là est prononçable aujourd'hui. Désormais, et pour nous tous, le Covid, c'est la grippe.
Ben, je pense pas dans ces termes exacts. Je peux pas dire c'est la grippe. C'est peut-être, ça se rapproche de la grippe comparé à ce qu'on a connu l'année dernière. Faut pas oublier pour l'instant que la Covid-19 a fait plusieurs millions. Je veux dire, si on regarde les statistiques, on estime qu'elles sont, elles sont faussées. Mais les vrais chiffres, c'est à peu près 20 millions de morts en deux ans, d'après l'Économiste, le journal L'Économiste, ce qui est quand même, disons, 10 millions par an, ça fait quand même 40 fois plus que la grippe. Donc je ne sais pas si...
Oui, mais au point où on en est là, je veux dire, au point où on
mais
en
voilà,
est là maintenant,
Omicron, en fait, désormais. Mais Omicron se rapproche, mais c'est vrai que Omicron, c'est ça ce que je voulais dire, Omicron se rapproche justement d'un phénomène grippal. Je ne peux pas l'appeler la grippe. Je crois qu'on attend encore d'avoir plus de confirmations, mais c'est vrai. On est dans un scénario qui est plus endémique aujourd'hui.
Il y a des pays qui vont même plus loin. Les Anglais, par exemple, décident qu'ils n'isolent plus les cas positifs. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Et ne plus isoler les cas positifs, ça veut dire oui, bah, ce qui reste à circuler continuera à circuler et c'est pas grave. Est-ce que là aussi, vous dites oulala, un peu loin, ou vous dites oui, bonne direction?
Je dirais que j'attends de voir les effets. Je crois qu'il y a certaines décisions qui sont prises plus d'un côté ou sur une base qui est politique, moins qui est sanitaire.
Comme partout.
Moi, je me base. Oui, mais enfin bon, moi, je me base plus au niveau sanitaire. Je pense que dans le cas de figure aujourd'hui, je suis moins choqué par cette décision. Je ne serais pas à même de la prendre aujourd'hui. Peut-être que dans un mois en Israël, on va décider que c'est ce qui va arriver. Aujourd'hui, je pense que c'est un peu pionnier. Mmh. Et puis on va leur souhaiter bonne chance.
Alors, c'est vrai qu'on leur souhaite bonne chance. On parlait à l'instant de ce paradoxe, toujours beaucoup de cas, mais une fin progressive des restrictions, alors que dans d'autres pays, je voudrais qu'on aille ensemble en Asie, en Corée du Sud notamment, qui a été le modèle pendant très longtemps, qui n'a pas confiné, qui avait une stratégie des 3 T que nous avons envié, testé, tracé, isolé. Bonsoir Nicolas Roca.
Bonjour Fabienne, bonjour à tous.
Eh bien, tout le monde s'accorde à dire aujourd'hui que les choses ont changé. Les 3 T, Nicolas, c'est fini.
Oui, c'est terminé, et même si avec un taux de vaccination de plus de 85%, un système de traçage de cas contacts efficace et un isolement obligatoire de 7 jours à l'arrivée dans le pays, la Corée du Sud avait su retarder l'arrivée du variant Omicron. Mais voilà, depuis fin janvier, les cas explosent, alors que jusqu'ici, la barre des 10 000 infections quotidiennes n'avait jamais été dépassée. Aujourd'hui, on en compte plus de 90 000. Dans ces conditions, il est impossible, vous le comprendrez, d'isoler chaque malade dans des centres spécifiques ou bien de remonter le fil des contaminations. Rappelez-vous, on avait raconté ici, dans Un jour dans le monde, le travail minutieux de ces enquêteurs épidémiologiques qui allaient visiter chaque lieu où s'étaient rendues les personnes testées positives, afin de n'oublier aucun éventuel cas contact. Ce travail nécessite environ 20 enquêteurs par cas positif, et donc vous imaginez bien qu'avec des prévisions de 170 000 à 200 000 cas par jour d'ici la fin du mois de mars, ce n'était tout simplement pas un modèle durable.
Donc Nicolas, on a compris, les autorités ne sont plus adaptées. En fait, les règles désormais donc ressemblent à quoi ?
Alors, elle s'était assouplie progressivement, mais la semaine dernière, on a assisté à un vrai tournant. Par exemple, j'ai été testé positif et je n'ai reçu qu'un seul coup de téléphone afin de m'informer du résultat du test PCR, mais pas de liste de cas contacts à fournir ou bien d'application à télécharger afin de vérifier que je respectais les règles de 7 jours d'isolement. Désormais, l'objectif est clair, c'est la gestion des cas graves et des personnes à risque. Et c'est vraiment un changement drastique. Il faut imaginer que depuis le début de la pandémie, lorsque l'on arrive à l'aéroport ici en Corée du Sud, on est accueilli par des fonctionnaires en combinaison antivirale intégrale. Il y a des restrictions sanitaires quasiment en permanence. Par exemple, les bars et les restaurants ferment à 21h depuis plusieurs mois, alors même que le virus circule finalement assez peu. Paradoxalement, donc, c'est quand les cas explosent que l'on a l'impression qu'il y a un vrai changement de cap. Le président Moon Jae-in a même expliqué que selon lui, Omicron était la dernière étape avant le retour à la vie normale. Et pour voir s'il a vu juste Fabienne, je vous donne rendez-vous dans les prochaines semaines.
Ben on y sera, Nicolas. Merci beaucoup. Là aussi, Cyril Cohen, on a cette forme de paradoxe. Moi, j'ai une question derrière ça. Je me dis, est-ce que nous aurons besoin dans l'avenir, même si nous savons qu'il y a moins de dangers, sauf effectivement pour les gens qui sont particulièrement fragiles, mais est-ce que ça veut dire que nous aurons besoin dans l'avenir d'identifier quand même, donc de se tester si on a des symptômes, juste pour être sûr qu'il n'y a pas un variant nouveau qui est apparu, donc de séquencer pour pouvoir agir spontanément et tout de suite, ou est-ce que comme lorsqu'on a une grippe, on se met au lit et on attend que ça passe. Est-ce qu'il faudra faire quelque chose de différent ?
Ça dépend à quel niveau on parle. Est-ce que c'est au niveau, je dirais, de l'individu ou au niveau, justement, des autorités et du sanitaire, quoi, de la gestion ? Vous savez, on séquence aussi les virus de la grippe. On les séquence pas tous, mais on prend des échantillons, etc. Donc, je pense que ça, il va falloir continuer. Moi, je reste quand même assez prudent. Vous savez, la Covid-19 nous a joué beaucoup de tours. Même ce variant Omicron a un nombre qui est impressionnant de mutations, et puis on a le BA2 et le BA1.1, etc. Je crois que la Covid-19 n'a pas encore dit son dernier mot. Donc je crois que dans ces périodes, il faut être beaucoup plus vigilant. Peut-être, au bout du compte, oui, j'espère qu'on sera dans un scénario qui ressemble à la grippe, et peut-être moins grave.
Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que, quoi qu'il arrive, en fait, de toute façon, on a quand même appris de ces 2 ans-là, et on peut dégainer beaucoup plus vite, on peut comprendre une 6e ou 7e vague, je ne sais pas où chacun en est réellement, on est un peu perdu là dans les vagues, mais au moins on aura gagné ça. C'est-à-dire que on sait dégainer rapidement et sans avoir à sortir la très grosse artillerie, c'est-à-dire fermer les frontières, c'est-à-dire confiner à nouveau, c'est-à-dire tout ce qu'on a dû utiliser ces derniers mois.
Je l'espère. Je crois que c'est surtout très dépendant du variant. Vous savez, une fois de plus, on a appris à vivre avec la Covid-19, on a appris à l'identifier. Mais s'il y a un variant qui est beaucoup plus dangereux, comme, vous savez, on avait des scénarios catastrophes, comme le scénario d'une grippe qui reviendrait comme la grippe espagnole, etc. Ouais. De manière bizarre, en 2009, on s'était rendu compte que c'était possible, mais on n'était pas suffisamment prêt. Aujourd'hui, on est arrivé, je pense, même au niveau mondial, on n'était pas suffisamment prêt. Donc peut-être que dans 10 ans, dans 20 ans, on se souviendra de la Covid-19, mais qui sait dans 30 ou 40 ans. Donc ça, je ne sais pas. Mais je crois qu'il faut rester vigilant, quoi qu'il en soit.
Je vais vous emmener dans un dernier pays, Cyril Cohen, et vraiment, j'aimerais entendre votre avis là-dessus. Je vais vous emmener dans un pays qui, au dernier comptage, comptait 6100 nouveaux cas confirmés, 6300 plus probablement, soit plus en un jour que le nombre total de ce pays en 2 ans d'épidémie. C'est Hong Kong. Hong Kong et ses résultats jusque-là spectaculaires, à la chinoise, c'est-à-dire avec un traçage extrêmement contraignant, des isolements d'immeubles entiers pour un cas, des hospitalisations de chaque cas positif. C'est bien fini. Hong Kong a été débordé par Omicron, au point que le président Xi Jinping est intervenu auprès des autorités. Bonsoir Florence de Changy.
Bonsoir Fabienne.
Dites-nous
bonsoir à tous.
À quoi ressemble, Florence, la situation chez vous ?
La situation est, disons, assez chaotique. On est vraiment au début de la cinquième vague, puisque Hong Kong avait effectivement réussi à s'isoler du virus jusque-là. Mais on a un nombre de contaminés actuellement qui s'alourdit de 5 à 10 000 cas par jour. Et donc, on voit bien que la stratégie dite de zéro Covid dynamique est obsolète. Tout le monde se rend compte que le gouvernement n'a pas les moyens de ses ambitions. Un exemple flagrant, c'est ce qu'on a vu depuis 2 nuits. Des malades, souvent des personnes âgées, installées en plein air entre 2 bâtiments d'hôpitaux, quasiment dans la rue donc, sur des lits à roulettes, tout simplement parce que les hôpitaux n'avaient pas la place pour accueillir tout le monde. Et pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas la place ? Tout simplement parce que c'est la règle d'hospitaliser, comme vous le disiez en introduction, tous les cas positifs, même asymptomatiques, ce qui crée évidemment un engorgement inutile et artificiel dans les hôpitaux. Les laboratoires sont également dépassés et ne peuvent pas traiter tous les tests réalisés en une journée, ce qui permet de penser que le bilan annoncé est en fait bien inférieur à la réalité. À côté de cela, cette approche a aussi un impact sur la vie quotidienne, puisque Hong Kong importe 98% de son alimentation et une grande partie du frais, notamment les légumes et la viande, arrivent du sud de la Chine par camion. Or, les 3/4 des chauffeurs de camions sont soit malades, soit cas contact, ou bien tout simplement ils ne veulent plus faire ces navettes parce qu'il y a trop de risques d'être envoyés en quarantaine. Et donc, l'approvisionnement de Hong Kong est également menacé.
Mais alors, sauf que Florence, face à cette réalité que vous nous décrivez, est-ce que le gouvernement envisage de changer de stratégie ?
Bien non, justement, pas du tout. Pour le moment, au lieu de remettre cette approche en cause, le gouvernement persiste et signe et cherche simplement des nouvelles structures d'accueil pour les malades et pour les cas contacts. La chef de l'exécutif, Carrie Lam, a parlé de mobiliser 3 immeubles de logements sociaux neufs. Elle a demandé aux hôteliers de fournir 10 000 chambres. Elle a également envisagé d'utiliser les dortoirs universitaires. Hier, un député a proposé d'utiliser un énorme paquebot de croisière. Bref, c'est la panique, d'autant que les personnes âgées sont la classe d'âge la moins vaccinée à Hong Kong. On sent monter une crise qui pourrait devenir une catastrophe, d'où l'avertissement très solennel du président chinois qui n'a jusqu'à présent jamais adressé une telle sommation au gouvernement de Carrie Lam quand il a dit de prendre toutes les mesures nécessaires et en rappelant que ce serait le gouvernement local qui porterait toute la responsabilité de cette crise.
Florence de Changy avec nous depuis Hong Kong. Une dernière chose avec vous, Cyril Cohen. Au bout du compte, quand on sera à l'heure du bilan, est-ce que ce qui nous manquera pas, c'est justement ça, en fait, ce sont les cas chinois, c'est l'origine du virus, c'est une autre forme de transparence qui éviterait en fait un effet de surprise désastreux. Est-ce qu'à la fin, c'est pas ça qui nous manque en fait ?
Ben ça, on l'avait connu déjà avec le SARS-CoV-1,
mais qui avait disparu, si je puis dire. Tout seul,
qui avait disparu parce que c'est une autre maladie, c'est une maladie qui est beaucoup plus symptomatique, donc c'est une autre maladie. Le gros problème de la Covid-19, c'est qu'elle est souvent asymptomatique, ou qu'il n'y a pas suffisamment de symptômes. Non, oui, moi, je ne pense pas qu'on saura tout. Et vous savez, même le, je dirais que l'hôte de la SARS, on dit SRAS en français, on l'a découvert seulement une dizaine d'années après l'épidémie. Donc, je veux dire, même ça, je ne sais pas, il faudra enquêter. Ça change rien. Je crois qu'il faut regarder. Vous savez, Israël est pragmatique. Ça fait 3000 ans qu'on est pragmatique. On regarde devant. Il faut penser au futur. Et il faut comprendre que c'est une leçon. J'espère que cette leçon nous aidera à améliorer nos systèmes de santé, notre détection. On a eu une prouesse. Ça a été ces vaccins qui ont changé la donne pour nous. Et c'est peut-être, il faut regarder le bon côté des choses. C'est peut-être, il faut rester optimiste. Ça nous a aider à nous préparer aux prochains défis qui nous attendent.
On croise quand même les doigts. Cyril Cohen, médecin pragmatique. Merci beaucoup. Merci de votre passage dans Un jour dans le monde.
Le 18-20, Fabienne Synthèse. sur France Inter.
La suite, c'est le bruit du monde, ça se passe au Japon et Karine Nishimura va vous emmener dans le monde des aspirés, des chamans. Attention, ça fait peur. Pour aller jusqu'à 19h sous les radars, Claire Chaudière.
On va parler notamment du secteur de l'édition en Iran, en grande difficulté. Les coûts de fabrication des livres ont explosé.
L'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes. Bonsoir Pierre Benazé.
Bonsoir, je vais vous parler d'Horizon et d'une drôle d'alliance à la fois anglo-suisse et pro-européenne. C'est européen, c'est de la recherche, c'est stratégique. Et c'est stratégique aussi pour ceux qui n'y sont plus et qui frappent à nouveau à la porte.
Le monde d'après, Jean-Marc Faure, bonsoir à vous Jean-Marc.
Bonsoir à tous. Le jour de l'annonce du retrait militaire du Mali, l'Europe promet une nouvelle donne avec l'Afrique. Séduisant, mais pas gagné.
Allez, à tout de suite tout le monde. Le tour de la planète continue. Il passe par le Royaume-Uni, FKA Twix et Darjeeling sur France Inter. You're not alone. Away to the end of time. Open your mind. Surely it's plain to see. AOT attract superstar. Crystal Palace, brap, brap, brap. Lymph for Christie Stadium. Every Tuesday flagging a boy. Athletes low key capping the law. Croydon College stacking up wall. Love so big, I give him my all. East or south, we're dreaming it all. Body hot like cooking for long. We like to make love like whilst the dogs. I was on his side, 55 to making a pro. Body hot like cooking for long. We like to make love like whilst the dogs. I was on his side, east or south, we're dreaming it all. Ran towards the last thought I could find. Yeah. Something bigger than the town that I had left behind. I remember packing on my bags, not saying my goodbyes. Also used to be a place I'd only ever start my dreams in, but home is where my heart is. Feel so alone in a city so big, 'cause I used to know the person that lived at 23 and try to smell the flowers that weren't on the common green. Getting off the 6 oysters just to spend my baby. And I was just getting to know myself. The city it brought me in inside. You're not alone. I'll wait till the end of time. Open your mind. Surely it's plain to see. AOT attract superstar. Crystal Palace, brap, brap, brap. Lymph for Christie Stadium. Every Tuesday flagging a boy. Athletes low key capping a lot. Croydon College stacking up what? Love so big, I give him my all. East or south, we're dreaming it.
Listen,
all.
Had to clean up my heart, mind, body, and soul. The London city's my home. She love me, fair, come, babe, leak at your toes. Build bricks in the sticks, come, we remake dough. Invest in my flow. To my young boy, look in your book and grow. Back then, used to boot like we do up pro. Now his fins, we part from the block back days, cause we show down shows. Shows. Should I choose that Gucci or LV coat? Yo, I'm black and a hood on glow. The bandos beaming, my pastry comes from rotating phones. Gun step to the hood's gone clear. So much patience is greatness, can we bake and toast? Don't go, scar practice means perfect, girl. If you don't know, leave it to me, uncle.
Started at a country girl, while he heading every grand. Had to change a couple schools, cause I wasn't fitting in. Take it straight to London, dream it big and let it grow. Just so you know. Feel so alone when the city gets cold. I've known that I'd make it since I was a young girl. The world is right there. But home is a place that makes my heart sing. You're not alone. I'll wait till the end of time. Open your mind. Surely it's plain to see. You're not alone. I'll wait till the end of time for you. Open your mind. Surely it's time to be with me.
Attention, ça fait peur. Le bruit du monde est au Japon ce soir. Un Japon que l'on voit parfois dans des films ou les dessins animés de Miyazaki, que l'on croit fictif mais qui existe vraiment. Celui des fantômes, des âmes, des esprits et de celles qui les voient et qui parlent avec eux, des chamans. C'est très mystérieux tout ça. Le reste, c'est Karine Nishimura qui raconte.
C'est un petit cabinet situé au 5e étage d'un immeuble banal du centre de Tokyo. Ici, officie Akio Tsurumi, tireuse de cartes, mais pas seulement.
Toute petite, je voyais ce que les autres ne voyaient pas. Au Japon, il y a beaucoup de gens qui voient le fantôme d'un défunt. Pas rare que quelqu'un dise « ton grand-père décédé est là, à côté de toi ». Il y a beaucoup de gens, mais moi je voyais plutôt les esprits d'éléments de la nature. Ce n'est pas tant voir avec les yeux qu'avec les neurones.
Son don, elle l'emploie pour exorciser des lieux où errent des esprits néfastes. C'est Muriel Jolivet, japonologue, auteure du livre « Les dernières chamanes du Japon » sur lesquelles elle enquête depuis des décennies, qui m'a attirée ici. Elle connaît Madame Tsurumi, Tsurumi-san, depuis plus de 20 ans.
Tsurumi-san, à Tokyo, n'est pas que tireuse de cartes. Elle est chamane. La plupart de mes chamanes, eh bien, elles m'ont dit que quand elles étaient petites, elles voyaient plein de choses. Mais elles croyaient que tout le monde les voyait. Il y en a une qui me raconte à l'enterrement du grand-père, eh ben, à côté de son cercueil, je voyais le grand-père, je fais coucou. Mais dans ma famille, on m'a dit, mais tais-toi, etc. Alors elle s'est dit, tiens, c'est bizarre, ils n'ont pas vu le grand-père.
Je vois des informations dans les cartes de tarot. Mais en lisant le tarot, je reçois par chamanisme des informations en provenance des esprits. J'utilise les deux.
On a tendance à dire qu'une chamane, c'est quelqu'un qui entre en transe. Or, la transe, je ne l'ai pas vraiment observée parmi les chamanes que j'ai rencontrés. Par contre, elle bascule facilement dans un autre monde, par exemple les Itako du nord du Japon, de Aomori.
Ces Itako étaient des femmes souvent aveugles, formées jeunes pour être chamanes, car ce handicap les condamnait à la marginalité sociale. Devenir Itako était un débouché, moyennant un rite de passage cruel.
L'initiation, ça s'étendait sur une semaine ou 10 jours, avec une privation alimentaire, une privation de sommeil, des prières à faire sans arrêt, c'est-à-dire le mental était constamment occupé. Au milieu de la nuit, aux heures, ce qu'on appelle au Japon les heures très effrayantes où les esprits sortent, aller dans un sanctuaire shintoïste pour se verser des seaux d'eau glacée sur le corps. Et ces femmes-là sont assimilables à des personnes à la fois recherchées et à la fois très redoutées. Donc, elles avaient un statut social extrêmement bas.
Mais ces Itako ont toujours eu une fonction essentielle.
Elles sont un canal entre les morts et les vivants. J'ai rencontré, à mon avis, la dernière Itako vraiment valable, qui avait 88 ans à l'époque, qui nous a fait un kuchiyose.
Kuchiyose, faire venir la voix d'un défunt.
La personne avec qui j'étais voulait faire parler un mort. La dame qui a appelé le mort a d'abord commencé par un rituel, le rituel d'agiter son chapelet en noix de lavage, qui fait beaucoup de bruit, et a commencé à psalmodier. Et à un moment donné, elle s'est arrêtée et elle a dit très clairement « Orite kudasai, orite kudasai », c'est-à-dire « descendez, descendez ». Et brusquement, sa voix s'est transformée. Une voix triste. Et on ne peut pas accuser une petite mémé de 88 ans de faire la comédie, je ne pense pas.
Après les grandes catastrophes, comme le meurtrier tsunami du 11 mars 2011, les chamans de tout type, avec leurs particularismes régionaux, sont un recours.
Quand vous perdez toute votre famille, vous n'avez même pas retrouvé les corps. Comment faire son deuil ?
Mais grâce au chaman,
il y a quelque chose qui se passe.
Et dans nombre d'autres circonstances aussi, elles comblent un manque.
D'autant plus que ces femmes sont d'une disponibilité, d'une écoute qui est très rare et qu'on ne trouve pas en psychiatrie au Japon, certainement pas. Elles font un bien énorme.
Car la palette des interrogations et souffrances des clients est large. Tsurumi-san a reçu des politiques, des médecins et même des policiers.
Le fait que ce que je dis se vérifie ou non dépend un peu de la personne qui le reçoit. Mais dans 90% des cas, c'est juste.
À partir du moment où ça marche, pourquoi pas ?
C'est pour cela qu'elles ont des clients.
Voilà, où l'on apprend aussi qu'il y a des heures effrayantes au Japon, dites-moi. Merci beaucoup, Karine Nishimura, dans Un jour dans le monde, le bruit du monde, la suite. C'est Sous les radars et c'est Claire Chaudière ce soir. Et Claire, nous voici pour commencer dans les rues de Téhéran, à deux pas de plusieurs maisons d'édition.
Oui, le secteur traverse là-bas d'importantes difficultés. Le nombre de livres publiés a chuté. Et pour les livres qui survivent, eh bien la pagination est réduite et le nombre de tirages est limité. Il faut dire que le prix du papier flambe et les coûts de fabrication ont explosé.
Le roman est
L'année dernière, un roman de 200 pages se vendait 400 000 riyals, soit 1 rial, soit 1,60 $, explique cet éditeur iranien interrogé par nos confrères de l'AFP. Son prix aujourd'hui, c'est 1 million de riyals, soit plus de 4 dollars. La majeure partie de l'augmentation correspond au coût de production, dit-il. En cause, les conséquences du rétablissement des sanctions américaines en 2018. L'impact prend de l'ampleur année après année au point de menacer l'existence même des acteurs de la filière, affirment ses représentants. La dévaluation de la monnaie iranienne face au billet vert, le prix du papier payé en dollars et l'augmentation des coûts de transport plongent l'édition donc dans le marasme. Certains éditeurs mettent la clé sous la porte. Vendre des livres tient du miracle aujourd'hui, disent-ils, car en plus la majorité des clients appartiennent à la classe moyenne et leur priorité est devenue de se procurer des biens de consommation essentiels comme la nourriture. Même les livres d'occasion se font de plus en plus rares en Iran.
Allez, direction le Cambodge qui accentue ces jours aussi sa surveillance en ligne.
Et le trafic web du Cambodge a basculé hier sur un nouveau système, c'est en tout cas ce qui était annoncé. Il est désormais connecté au réseau mondial via un portail gouvernemental unique, une passerelle internet nationale qui permettra aux autorités de surveiller les contenus et bloquer des sites ou des communications perçues comme contraires à la sécurité, l'ordre social, la moralité ou la culture. Voilà les grandes lignes de cette nouvelle réglementation inspirée du grand pare-feu mis en place dans les années 2000 à Pékin et qui ne fait pas les affaires de Kea Sokoun, célèbre rappeur cambodgien. Dans ses chansons, dont celle que vous entendez intitulée Khmerland, l'artiste critique la politique gouvernementale, décrit une population qui meurt de faim et un pays qui perd du terrain face à ses voisins. Agitation sociale a tranché le gouvernement qu'il a déjà placé en détention. Il est sorti de prison mais pourrait y retourner. Il refuse en tout cas de se taire et prend la parole aujourd'hui pour dénoncer ces nouvelles règles. Opposants, intellectuels, journalistes, artistes basculent en ce moment sur des messageries cryptées de type signal ou Telegram et vont jusqu'à utiliser un vocabulaire codé pour éviter les mots trop sensibles.
Claire, on va changer complètement d'univers. Oui, alors il est un peu tard pour en boire un maintenant, quoique moi je peux faire ça toutes les heures, sous peine de pour beaucoup de gens une très belle insomnie.
Oui, il est question de caféine pour terminer ce petit tour du monde sous les radars.
L'espresso nasce dalla creatività degli italiani.
L'espresso est né de la créativité des Italiens, nous explique cette jeune habitante de Rome. C'est comme un shoot d'adrénaline, ça me fait me sentir plus jeune, renchérit son voisin de café. Et cette question donc d'actualité, l'expresso et son rite quasi sacré sont-ils dignes d'entrer au patrimoine immatériel de l'UNESCO ? La demande très officielle a été envoyée par le ministère italien de l'Agriculture à la Commission nationale de l'UNESCO qui doit soumettre l'idée d'ici le 31 mars au siège de l'agence qui se trouve à Paris. Café mêlé d'arômes fleuris ou fruités, pain grillé, couleur crème, noisette ou fauve, une trentaine de millions d'expressos sont avalés tous les jours en Italie dans de petites tasses en porcelaine ou bien de petits verres. Mais c'est aussi toute la convivialité qui va avec, que le pays espère voir récompensé. Allez, on se quitte avec ce clin d'œil musical qui date de 1977, Fabienne. Natatsu, les cafés du chanteur napolitain Pino Daniele, est mort en 2015. Bon, je crois que la pizza est déjà au patrimoine mondial de l'UNESCO.
C'est vrai, il paraît que ce sont les Français qui en mangent plus que les Italiens.
C'est
même.
Possible.
Comme quoi, hein, allez savoir. Allez, ben moi je prendrais plutôt un déca, donc quand même.
Alors
à
moi,
cette heure-ci,
c'est plutôt des très allongé en fait.
Très bien,
voilà,
bon,
je suis
bah,
pas
écoutez,
du tout une puriste.
Bon, bah, vous pouvez vous lever et
sortir, sortir tout de suite.
Voilà.
Allez, bonne soirée.
Allez, merci beaucoup, Claire, à très vite.
France Inter.
Je suis venu vous parler de
l'European Union Générale.
Un jour dans le monde.
L'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes avec Pierre Benazé ce soir. Pierre, on parle de ceux qui ne l'aiment pas vraiment. La folie, cette Europe, ceux qui l'ont quittée ou qui ne l'ont pas rejointe, ce sont les Suisses et les Britanniques. Ils n'y sont pas ou plus et pourtant ils frappent à la porte de l'Union parce qu'ils veulent entrer dans Horizon. Alors qu'est-ce que c'est que cet Horizon qui attire tant nos voisins helvètes et grands bretons, Pierre ?
Alors, pour utiliser le vocabulaire officiel de l'Union européenne, c'est un programme cadre pour la recherche. Et ce programme cadre s'inscrit dans un plan septennal. Ça, c'est pour le côté soviétique de la description, mais c'est vraiment tout ce qui est soviétique dans l'histoire. Parce que Horizon, c'est d'abord et avant tout de l'argent, mais alors beaucoup d'argent, parce que l'Union européenne met 95 milliards et demi d'euros sur la table. De grands projets doivent être poussés, en particulier dans la recherche sur la lutte contre le réchauffement climatique, les objectifs de développement du millénaire. Et selon la Commission, ça accélère la compétitivité et la croissance. Alors avec un programme comme ça, on comprend que les Britanniques et les Suisses soient attirés.
Et donc, tous leurs chercheurs, pour tous ces chercheurs-là, l'horizon est bouché.
Alors, je vous remercie Fabienne, effectivement. D'abord, merci pour ça, mais oui, vous avez raison. D'un côté, la Suisse et ses chercheurs, de l'autre, le Royaume-Uni et ses chercheurs, ils veulent encore tous participer au programme de recherche de l'UE, mais pour l'instant, ils sont pas dans Horizon, ils arrivent toujours pas à obtenir d'y entrer. Je vous propose d'écouter le président de la Confédération suisse, Ignacio Cassis, au micro de nos confrères de la RTS, la radio-télévision suisse.
L'Union européenne ne veut pas en parler avec la Suisse. Donc, de notre part, tout est fait pour le faire, mais on ne peut pas obliger quelqu'un à nous marier qui n'a pas envie de nous marier. Le Conseil fédéral a frappé à la porte de Bruxelles, a parlé pendant 5 mois de manière secrète, même le Parlement ne savait pas exactement de quoi on parlait, pour justement essayer, et la réponse a été niette. Nous, la Suisse, le Conseil fédéral est prêt à accepter des conséquences, il l'a dit très clairement, il estime que ce lien politique que la Commission européenne fait entre la science et la question de participation n'a pas raison d'être, est contre-productif. Mais voilà, on peut pas obliger l'autre part à faire ce qu'on désire.
Alors effectivement, Pierre, tout ça paraît très pragmatique, mais la Suisse n'est pas entrée dans l'Union européenne la nuit dernière. Donc à quel titre leurs chercheurs seraient dans les programmes de l'Union européenne ?
Alors effectivement, non, les Helvètes, je vous le confirme, ils résistent encore et toujours à l'envahisseur européen, même s'ils sont encerclés de tous côtés par l'UE, à part Liechtenstein. Mais en fait, pour la recherche, pour les universités, les instituts polytechniques suisses, l'ambition c'était de rester dans un horizon. Ils y étaient auparavant parce que l'Union avait, avec la Suisse, toute une série d'accords qu'on appelait bilatéraux, dont celui pour la recherche. Tout allait donc pour le mieux dans le meilleur des mondes, jusqu'à ce que, patatras, le Conseil fédéral, c'est celui que préside actuellement le Tessinois Ignacio Cassis, jusqu'à ce que donc ce Conseil fédéral, disais-je, décide l'an dernier de se retirer des négociations pour un accord institutionnel avec l'Europe. Et là, tous les accords bilatéraux sont écroulés. Plus d'argent européen pour la recherche suisse.
Et alors, mais les Britanniques, Pierre, on a cru comprendre quand même qu'ils avaient claqué la porte, donc ils veulent revenir en fait.
Oui, alors ils avaient bien négocié au départ, parce que l'accord d'association et de commerce avec le Royaume-Uni, ça prévoyait qu'ils resteraient dans l'essentiel des programmes de recherche d'Horizon. Mais depuis qu'ils ont remis en cause l'accord de sortie sur le protocole pour l'Irlande du Nord, rien ne va plus avec les Européens. Et donc là aussi, patatras, les Européens ne sont pas forcément opposés à les voir revenir, parce qu'ils possèdent de brillants chercheurs et de brillants instituts.
Sauf que pour l'instant, tout est bloqué.
Tout est bloqué, alors que pourtant des pays non européens comme Israël sont dans le programme Horizon. Et donc voilà, on en est arrivé à un point où les Britanniques et les Suisses doivent financer des programmes nationaux s'ils veulent rester en pointe et éviter la fuite des cerveaux. Du coup, ils ont monté une alliance baptisée Stick to Science. Tenons-nous-en à la science, où sont aussi associés des chercheurs européens et autres. Les tabloïds britanniques, eux, ont beau jeu de titrer « Nananer, vous n'aurez pas nos belles livres sterling ni nos chercheurs ». C'est peut-être aussi une perte pour l'Europe, d'autant que certains de ces chercheurs sont peut-être même des chercheurs trouveurs.
Allez savoir. Pierre Benazé avec nous depuis Bruxelles, comme chaque jeudi. Merci beaucoup.
Fabienne Synthès, le 18-20.
Le monde d'après de Jean-Marc Four. Jean-Marc, la France et ses partenaires européens ont donc décidé de retirer leurs troupes du Mali. C'est officiel depuis ce matin. Mais pour vous, ce spectaculaire échec militaire et politique ne doit pas faire oublier une autre annonce sur l'Afrique. À l'occasion du sommet entre l'Europe et les pays africains à Bruxelles, un nouveau partenariat entre les deux continents, un pari ambitieux, et c'est votre monde d'après.
Sur le papier, c'est séduisant. La bande-annonce du film donne envie. Les belles formules sont sorties. Nouvelle donne, refondation, partenariat d'égal à égal, etc. Et le tout avec du beau linge à Bruxelles. Les dirigeants européens, dont Emmanuel Macron qui préside actuellement le Conseil de l'Union, et 40 dirigeants africains. C'est quoi l'idée ? Eh bien, précisément, le jour de l'annonce du retrait des soldats de Barkhane au Mali, l'idée c'est de faire de tout, sauf du militaire. De la santé, l'Europe promet de la livraison d'1 milliard de vaccins à l'Afrique, il n'y a que 11% de la population qui est vaccinée sur le continent africain, et puis des moyens pour créer des usines de fabrication du vaccin sur le sol africain, au Sénégal, en Afrique du Sud, au Ghana, au Rwanda, de l'éducation, du numérique, de la fibre optique, des câbles électriques, des routes, des ingénieurs, le tout dans le cadre du projet Global Gateway, annoncé par Bruxelles sur les 300 milliards de ce plan de développement d'infrastructures, la moitié doit aller à l'Afrique. Et ce projet s'inscrit dans la droite ligne en fait des propos tenus par Emmanuel Macron depuis 5 ans. Vous savez, depuis son discours de Ouagadougou où il avait voulu sonner le glas de la vieille France-Afrique et souhaiter s'adresser d'abord aux sociétés civiles africaines, aux étudiants, aux entrepreneurs. Il y a donc là une cohérence et aussi un intérêt bien compris. L'Afrique, c'est le partenaire naturel de l'Europe à sa frontière sud.
Mais je vous sens sceptique, Jean-Marc.
Oui, vous avez deviné, mais les écueils sont nombreux quand même. Hein. Le premier, et là on en revient directement au retrait des soldats de Barkhane, c'est l'insécurité, pas vraiment propice au développement de projets économiques. Le terrorisme islamiste qui se développe au Sahel et menace les pays voisins, la piraterie qui demeure un fléau dans le golfe de Guinée, et puis le trafic d'êtres humains, de migrants qui reste florissant malheureusement vers la Libye. Le deuxième écueil, c'est la gouvernance, l'état douteux des régimes politiques dans de nombreux pays du continent. C'est pas le tout de financer des projets, encore faut-il que l'argent arrive à destination sur le terrain sans tomber entre-temps dans la poche de dirigeants corrompus, qu'ils soient militaires ou qu'ils soient civils. Et puis alors ces derniers temps, question gouvernance, c'est pas la joie, on le rappelle, putsch militaire en série, du Mali au Burkina en passant par la Guinée ou le Soudan, même si tous ne sont pas comparables, tripatouillage constitutionnel au Tchad, en Côte d'Ivoire, arrestation d'opposants au Bénin, au Sénégal, faites votre choix. Troisième écueil, l'image sur le continent africain, des Européens et des Français en particulier, à la fois soupçonnés de néocolonialisme, en particulier en raison des présences militaires, et montrés du doigt pour la lenteur de leur processus administratif. Entre le moment où un projet est annoncé et le moment où il arrive vraiment sur le terrain, il peut se passer une éternité, dit-on, avec les projets européens. Exemple, les livraisons de vaccins.
Et puis Jean-Marc, il y a aussi des rivaux.
Oui, évidemment, la Turquie, l'Inde, la Russie et surtout, on le sait, la Chine. En 20 ans, elle a multiplié ses échanges commerciaux avec l'Afrique par 20. Plus de 10 000 entreprises africaines sont dirigées ou financées aujourd'hui par des Chinois. Pékin construit des routes, des stades, des chemins de fer, a ouvert plus de 60 instituts culturels. Depuis 2 ou 3 ans, quand même, les investissements ont ralenti. Mais l'image économique de la Chine reste forte sur le sol africain. Et puis le régime de Pékin est assez peu regardant sur les pratiques des potentats du continent. Donc oui, il y a des concurrents. Mais le principal rival de l'Europe en Afrique, c'est elle-même. Parce que les beaux discours sur la fin de la condescendance et la nouvelle donne, on y a déjà eu droit à plusieurs reprises. Décréter un changement de logiciel, ça suffit pas, il faut surtout le faire. Sinon c'est même pire parce que ça crée de la frustration. Après une bande-annonce réussie, un film décevant. Aujourd'hui, la coïncidence entre l'annonce de ce nouveau partenariat et l'annonce du retrait militaire du Mali est saisissante. Et après tout, c'est peut-être un signe, une invitation à se saisir de ce retrait pour en faire un atout. Arrêter une bonne fois pour toutes de regarder l'Afrique d'abord en termes de sécurité, en termes militaires post-coloniaux, et se décider à y voir plutôt un partenaire commercial, un marché gigantesque, 54 pays et bientôt 1,5 milliard d'habitants.
Le monde d'après tous les soirs dans Un jour dans le monde. Merci beaucoup Jean-Marc Four. Pour nous, ça continue le 18-20. La suite, c'est le journal de 19h présenté par Hélène Philly. Et juste après, le téléphone sonne. Bonne soirée avec nous.